3. Et c'est également largement moins que lors des précédents scrutins présidentiels au second tour à la même heure. Quelques exemples. 71,96%, ça c'était en 2012. En 2007, 75,11%. En 2002, participation de 67,62%. Pour ce second tour, en 2017, eh bien, les départements où on a la plus voté, toujours à 17h, l'Allier, l'Eure, les Deux-Sèvres à plus de 72%, les Côtes-d'Armor, le Cantal et l'Aude à plus de 71%. En revanche, on a le moins voté en Corse du Sud, 53,58%, Seine-Saint-Denis, 54,65%, mais également en Haute-Corse et dans le Val-de-Marne. Participation en métropole de 65,3% à 17h. On connaîtra le taux définitif dans la soirée. S'il était inférieur à celui du premier tour sur le chiffre définitif, ce serait tout simplement du jamais vu depuis la présidentielle de 1969.
Ah oui, pour nos partenaires d'Ipsos Soprasteria, ce taux d'abstention finale pourrait tourner autour de 26%. En tout cas, on aura moins voté donc qu'au premier tour, et ça s'est vu notamment à l'étranger où les files d'attente avaient été nombreuses le 23 avril. Peut-être en a-t-on tiré les leçons. En tout cas, ce fut beaucoup plus fluide ce dimanche à Londres, par exemple, Antoine Gignot.
Pas un blocage, pas un bouchon, les files d'attente délimitées par les rubans de chantier sont vides et les Français qui sont venus voter sont un peu surpris.
On a mis 12 minutes contre plus de 2 heures il y a 15 jours.
C'est rapide, j'espère juste que c'est pas l'abstention.
L'abstention, c'est la principale inquiétude, la principale inconnue aussi de ce scrutin pour Célia et Lucie.
Il y a un problème d'abstention à Londres, je pense. Parce qu'il y a un pont et que tous les gens qui ont des enfants en ont profité parce qu'il fait beau et parce que les gens pensent qu'il n'y a pas besoin de se déplacer.
Nuance tout de même, à l'intérieur du bureau de vote, les bénévoles expliquent qu'ils n'ont pas l'impression d'une baisse de la participation. Ce serait même, explique Vincent, plutôt l'inverse.
Je pense qu'ils sont un peu plus nombreux qu'il y a 2 semaines, à la même heure. Approximatif là, par rapport au comptage qu'on a, mais... Là, ce qu'on peut voir à la même heure, il y a un petit peu plus de votants.
Des votants qui vont ce soir tendre l'oreille en direction de la France. Beaucoup ont déjà, sur les réseaux sociaux, tenté de regarder les estimations postées sous le mot-clé Radio Londres.
Espérons que ça se passe bien quand même, hein, on verra ce soir.
Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Un second tour qui se sera déroulé comme le premier sans incident majeur. La sécurité autour des bureaux de vote avait été globalement renforcée et le sera encore ce soir autour des lieux de rassemblement. Cet après-midi, l'esplanade du Louvre, où Emmanuel Macron a convoqué ses partisans tout à l'heure en cas de victoire, a dû être évacuée après la détection d'un colis suspect. Bref, la vigilance, quoi qu'il arrive, Jean-Philippe Deniau reste de rigueur.
Oui, vigilance et inquiétude. Les forces de sécurité craignent des débordements. Un déploiement exceptionnel de policiers, gendarmes et militaires sécurise donc les deux sites choisis par les candidats pour leur soirée. L'esplanade du Louvre pour Emmanuel Macron, le site a été protégé comme pour une fan zone. Il a été vidé en début de soirée avant que le public puisse de nouveau accéder devant l'estrade installée près de la pyramide après une fouille rigoureuse dans les minutes qui viennent. Plus confidentiel mais tout aussi sécurisé, le restaurant du nouveau chalet du lac à l'entrée du bois de Vincennes, là où Marine Le Pen organise sa soirée. L'établissement ne peut accueillir que 600 personnes au maximum. Et là aussi, les routes et les chemins qui y mènent sont rigoureusement filtrés. Puis, de nombreuses forces mobiles sont également stationnées dans d'autres quartiers sensibles de la capitale, notamment aux abords des places de la Bastille et de la République. Des appels au rassemblement fleurissent sur les réseaux sociaux et ils pourraient attirer des groupuscules violents comme ceux qui ont provoqué quelques échauffourées au soir du premier tour, 6 policiers avaient été légèrement blessés il y a 2 semaines. Pour ce soir, des moyens renforcés ont donc été mobilisés, avec même des canons à eau. Une cellule de suivi au ministère de l'Intérieur permettra d'orienter les forces de l'ordre en fonction des besoins en temps réel.
On apprend ce soir que 4 des 5 jeunes radicalisés arrêtés mardi à Villeneuve-d'Ascq, à Roanne et à Rouen ont été mis en examen et écroués pour association de malfaiteurs terroristes. Dans une vidéo interceptée par les services de renseignement, ils faisaient allégeance au groupe État islamique. En attendant, le verdict, que se passe-t-il au quartier général de chacun des deux candidats, ou plutôt sur les lieux de rendez-vous de la soirée? Direction pour commencer le parvis du Louvre, où le candidat Macron doit prendre la parole en fin de soirée. Elodie Forêt, quelle ambiance, quel programme pour cette soirée?
Il y a une drôle d'atmosphère hein, ce soir, c'est très calme. Il y a une 20aine de minutes, Jean-Philippe Deniau l'a dit, les badauds ont été évacués du parvis afin que la place soit vraiment sécurisée et que tout le monde soit fouillé. Ne reste donc pour l'instant que les journalistes. Nous sommes 2000 à avoir été accrédités. On attend sous une tente gigantesque à quelques dizaines de mètres de la pyramide et de la Seine montée pour l'occasion. Emmanuel Macron, lui, est à son QG de campagne dans le 15e arrondissement arrondissement de Paris, enfermé dans son bureau avec sa famille et ses soutiens, François Bayrou, Gérard Collomb ou encore Christophe Castaner. Et c'est du QG qui prendra la parole une première fois en cas de victoire. Une allocution très courte, nous dit-on, sans fioritures. Emmanuel Macron devrait ensuite passer des coups de téléphone à des dirigeants étrangers, puis venir ici au Louvre devant ses partisans, refaire un nouveau discours, rapide aussi, pas plus de 10 minutes. A priori, ça ne sera pas avant 22h.
Élodie Forêt avec Marc Gardénès au Louvre. Victoire ou défaite pour Marine Le Pen, c'est au Chalet du Lac à Vincennes qu'est organisé le grand rassemblement de ses soutiens. Et c'est là que la candidate va passer la soirée, Aurélien Colli.
Oui, l'ambiance est un peu particulière, pas la même ferveur que lors du premier tour. On sent un peu de tension ici au Chalet du Lac au bois de Vincennes, un lieu plutôt chic, sous protection policière et avec un service d'ordre du FN omniprésent. C'est l'opposé de la salle des fêtes d'Hénin-Beaumont dans le Nord, où on était pour la soirée du premier tour dans une ambiance plus populaire et plus chaleureuse. Hénin-Beaumont, où Marine Le Pen a voté en fin de matinée, comme au premier tour des Femmes, ont mené une action pour perturber son vote, en l'occurrence une banderole anti-FN déployée sur le fronton de l'église. Et puis Marine Le Pen est rentrée à Paris, un tour par son QG à côté de l'Arc de Triomphe, et on l'a en ce moment même, d'une minute à l'autre ici au Bois de Boulogne pour une soirée qui ne sera pas au Bois de Vincennes, pardon, pour une soirée qui ne sera pas très longue pour la presse, puisqu'à partir de 22h, les quelques 500 journalistes accrédités n'auront plus accès à la salle principale où environ un millier de militants frontistes sont attendus sur invitation. Le FN ne veut pas de caméra, pas de micro, pas de flash pour la fin de soirée. En fait, pour résumer, jusqu'à la fin de l'élection, les relations avec la presse auront été assez compliquées ce soir encore. Il y a une dizaine de médias qui n'ont pas pu être accrédités officiellement pour un problème de place. En solidarité, plusieurs journaux, presse écrite, radio ont décidé aussi de boycotter la soirée.
Aurélien Colli avec Frédéric Kérou à Vincennes. Résultats, commentaires et réactions sur France Inter et sur le site franceinter.fr à partir de 20h. Déjà un premier commentaire avec vous, Frédéric Mettezeau, chef du service politique de France Inter. D'abord sur le taux de participation, moins important qu'à l'habitude, on l'a dit, ce qui doit avoir une signification.
Oui, une abstention qui augmente entre les deux tours. C'est rare, il y avait eu beaucoup d'appels à l'abstention ou au vote blanc pendant cet entre-deux tours. C'est rare, donc cela ne s'était pas vu depuis 1969, année où la participation avait été la plus faible. Ce soir, au-delà des scores en pourcentage, il sera aussi intéressant de voir le nombre de voix en valeur absolue et voir comment chaque candidat a progressé ou pas en nombre de voix en deux semaines. Autre paramètre, les votes blancs, ces votes sont comptés mais pas décomptés. Cela veut dire qu'ils sont comptés puis mis de côté et pas intégrés dans le calcul final des pourcentages. Le résultat, quel qu'il soit, promet des législatives complexes, puisque nous avons d'ores et déjà 5 blocs politiques en France, le FN, En Marche, la droite et le centre, les Insoumis et le Parti Socialiste.
Et donc cette élection aura été inédite à plus d'un titre, on l'a dit, quel que soit le vainqueur, vous venez de le dire, on sera dans une configuration nouvelle pour la prochaine échéance.
Oui, d'abord, si Marine Le Pen est élue, elle sera la première femme à entrer à l'Élysée. Si c'est Emmanuel Macron, il sera à 39 ans le plus jeune président de la République jamais élu. Et quoi qu'il en soit, le futur chef de l'État ne sera issu d'aucune des grandes forces de gouvernement qui se sont succédées depuis 1958. Marine Le Pen, candidate du FN, de l'extrême droite. Emmanuel Macron, d'un mouvement ni droite ni gauche tout neuf, puisqu'En Marche, est né en avril 2016. Et puis aussi, c'est la première fois que le travail des journalistes est si compliqué. La loi électorale s'est trouvée percutée par les réseaux sociaux. Vous savez, ces fuites organisées vendredi à minuit moins 5, sans possibilité pour une presse sérieuse de traiter, décrypter et commenter. Et puis, comme vient de nous le raconter Aurélien Colli, ces journalistes nombreux à ne pouvoir couvrir la soirée électorale du FN.
Frédéric Mettezeau, on vous retrouve juste après ce journal dans la soirée spéciale élection. Dernier avatar de cette campagne présidentielle après le piratage des mails et factures de l'équipe Macron, des milliers de documents diffusés sur Internet hier. Le parquet de Paris a ouvert une enquête judiciaire, notamment pour atteinte au secret des correspondances. Dans l'actualité également de ce dimanche soir, il avait été enlevé il y a 6 semaines à l'est du Tchad, à la frontière soudanaise. Un Français de 60 ans, Thierry Frézier, employé d'une société minière, a été libéré ce matin par une opération conjointe franco-tchado-soudanaise. C'est en tout cas ce qu'affirment les autorités de Khartoum, où l'otage a été remis à l'ambassade de France. Thierry Frézier qui dit avoir été bien traité par ses ravisseurs.
Le traitement a été très bon. Je n'ai rien à dire de ce côté-là. Donc, je ne vais pas me plaindre. Dans mon malheur, j'ai eu un peu de bonheur.
Voilà, quelques mots rapides à la presse, à l'aéroport de Khartoum cet après-midi. Au même moment, à l'Élysée, François Hollande a félicité l'ensemble des acteurs qui se sont impliqués dans l'issue heureuse de cet enlèvement, qui n'aurait fait l'objet, selon les autorités soudanaises, d'aucune rançon. Isabelle Labéry.
Enlevé le 23 mars dans une zone reculée du pays, près d'Abéché, il avait dès le lendemain été emmené de l'autre côté de la frontière, au Darfour, province du Soudan, en proie à la guerre civile. En 2009 déjà, un agronome français avait été enlevé dans la même région par un groupe de rebelles, aux motivations plus crapuleuses que politiques. Il avait été libéré après 3 mois. Cette fois-ci, les négociations sont allées plus vite. Ce sont les services de sécurité soudanais qui ont annoncé leur dénouement. Depuis un mois et demi, ils travaillaient d'arrache-pied pour obtenir cette libération avec la France et le Tchad. C'est d'ailleurs à N'Djamena, la capitale tchadienne, qui est installé le QG de la force Barkhane qui lutte contre le terrorisme dans la région. À ce jour, 2 autres Français sont otages dans le monde, une humanitaire enlevée en décembre dans le Nord Mali et le salarié d'une mine d'or capturé début mars dans l'est de la République démocratique du Congo.
Au Nigeria, les 82 lycéennes de Chibok libérées par Boko Haram ont été reçues par le président Muhammadu Buhari. Elles avaient été enlevées il y a 3 ans avec près de 200 autres adolescentes. Elles ont été échangées contre des détenus djihadistes. Et on votait aussi en Allemagne, aujourd'hui dans le Schleswig-Holstein, au nord du pays, pour l'Assemblée régionale, avant-dernier scrutin local avant les législatives de septembre. Et c'est la CDU d'Angela Merkel qui progresse avec, aux premières estimations, près de 33% des voix, 3 points de mieux qu'en 2012. Le SPD à 26% serait en recul de 4 points. Sur la route, des difficultés ce soir, non plus en région parisienne, mais à Marseille, Élise Thibault.
Et oui, malgré le lundi férié, beaucoup de retours ce soir, notamment à Marseille, pour ceux qui espèrent encore voter avant la fermeture. L'A7 est fortement ralentie en ce moment depuis Septèmes-les-Vallons. Ensuite, c'est l'A55 qui est saturée jusque dans le centre de Marseille. On compte quasiment une heure de bouchon en ce moment. À Bordeaux, ça coince pour rejoindre le Bordeaux sur la 63, mais aussi à la sortie d'Arcachon pendant une bonne demi-heure. Enfin, en région parisienne, c'est la 13 en venant de Normandie qui est ralentie.
Élise Thibault, OPC Mobilité de Radio France. Et tout de suite, le temps.
La météo, avec la carte week-end Hop Air France, des réductions sur plus de 60 lignes en France. Rendez-vous sur airfrance.fr ou hop.com. Hop, vous y êtes.
Ça s'améliore tout doucement, Jean-Michel Golinski.
Demain, mis à part un faible risque d'ondées sur les massifs de l'Est, notamment en début de matinée, la tendance générale est au retour d'un temps sec, très ensoleillé au pied des Pyrénées sur le bassin méditerranéen, mais avec un mistral et une tramontane très turbulents vers 90 km à l'heure. Sur le reste du pays, le ciel sera quand même beaucoup plus variable, encombré de brouillard et de nuages bas en matinée, avant le retour d'éclaircies souvent à partir de la mi-journée. Les températures confortables en cours de nuit vont l'après-midi rester comparables à celles d'aujourd'hui, variant en général entre 14 et 18 degrés du nord de la Loire au quart nord-est, 18 à 20 près de la Garonne et 21 à 24 sur la Corse, la Côte d'Azur et dans le golfe du Lion.
France Inter, 19h15, on passe au sport. Bonsoir Cécilia Arbona.
Bonsoir Yves.
Du foot pour commencer.
Lyon qui joue sur 2 tableaux, le championnat et l'Europa League, conforte sa 4e place en tête de l'élite ce soir. Avant de disputer sa demi-finale retour contre l'Ajax d'Amsterdam jeudi, l'OL a battu Nantes, 3-2. Alors est-ce qu'on peut dire que les joueurs de Bruno Genesio se sont réveillés en deuxième période, Christophe Vincent?
Oui, Cécilia, on peut le dire. Il valait mieux qu'il se réveille, ces Lyonnais, car le public du Parc OL grondait. Son équipe était menée depuis la 20e minute, but de Rongier, et n'avait quasiment rien montré d'intéressant. Au bout d'une heure de jeu, bien terne, tout s'est précipité. Fekir a obtenu un penalty généreux qu'il a lui-même transformé. 5 minutes plus tard, les Lyonnais ont pris l'avantage par Cornet qui venait de remplacer Lacazette préservée pour l'Ajax. Avantage de courte durée puisque Nantes a égalisé par Gillet, mais Cornet a permis à Lyon de reprendre l'avantage et d'emporter ce match. Lyon a conforté sa 4e place quasiment acquise puisque 6 points séparent les Lyonnais des Bordelais. Lyon devrait jouer l'année prochaine en Europa League directement sans passer par les phases préliminaires. Donc mission assurée à 4 jours du choc demi-finale retour contre l'Ajax, ici à domicile au Parc OL.
Merci Christophe Vincent. Alors la grosse affiche de ce dimanche soir, elle fleure bon le sel de la Méditerranée et la chaleur mixée de la Provence et de la Riviera. C'est tout un programme. Marseille accueille Nice tout à l'heure et dans moins de 2 heures au Vélodrome, les joueurs phocéens ont l'occasion de récupérer la 5e place de la Ligue 1. Et ce numéro 5, il est synonyme de sésame européen, Tony Cellier.
Ne vous amusez surtout pas à rappeler à Rudy Garcia ce qui est pourtant une évidence. Jamais cette saison, l'OM n'a fait tomber un gros bras du championnat.
C'est les statistiques, ça. C'est bien, les statistiques, elles sont faites pour tomber, donc voilà.
Sauf que cette fois, Marseille est servie. Nice n'a perdu que deux fois jusqu'ici en championnat. À Caen et Bordeaux, personne n'a fait mieux. Le milieu de terrain, William Vainqueur.
Ils ont des bons joueurs partout. Hein. Belanda, c'est un très bon joueur. Balotelli aussi peut faire des belles choses. Seri aussi, qui est très très fort. C'est une équipe complète. Il faut avoir peur, enfin, pas peur, mais il faut se méfier de chacun des 11 joueurs qui est sur le terrain. Mais encore une fois, on se focalise vraiment pas sur eux.
Alors, même pas peur, l'OM. Vraiment ?
On ne prouvera rien du tout. Ce qu'on veut, c'est être européen la saison prochaine. Si on bat Nice, qu'on perd les deux matchs d'après, on aura prouvé quoi ? Rien. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est prendre le plus de points possible jusqu'à la fin. Mais en route vers l'exploit, on y va pour ça, ça c'est sûr.
Et à gagner, c'est encore mieux. Plus de 55 000 spectateurs espèrent bien vivre ça au Vélodrome. Ce serait la meilleure des manières, surtout de donner d'ores et déjà rendez-vous à la saison prochaine. Certainement plus ambitieuse pour l'OM.
Et cet après-midi, le Stade Rennais a battu Montpellier en s'imposant de manière poussive 1-0. Déplacement frustrant pour le club de l'Hérault qui n'a toujours pas totalement assuré son maintien. Dans le top 14 de rugby, il aura fallu attendre l'ultime journée de la phase régulière pour connaître les oppositions des matchs décisifs. Clermont-Ferrand a décroché son ticket pour une demi-finale à Marseille le 27 mai. L'ASM sera opposé à La Rochelle. Toulon recevra Castres le 19 mai. Le lendemain, Montpellier va vainqueur du Stade français sera opposé au Racing 92. Alors attention, la donne pourrait un petit peu changer, peut-être pour cette affiche. La réclamation du Stade français qui conteste la qualification du joueur de Montpellier, Jacques Duplessis, sera examinée en urgence mercredi par la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby. À 13, Carcassonne a remporté cet après-midi la Coupe Lord Derby, c'est la Coupe de France. Carcassonne qui a battu Lézignan, 30-24. Allez, c'était le feu sur la glace tout à l'heure à Paris-Bercy avec l'exploit des hockeyeurs français dans le championnat du monde. L'équipe de France a battu la Finlande, vice-championne du monde, 5-1. C'est énorme, Xavier Monferrand, la Marseillaise a fait vibrer Bercy, vous aussi ?
Oui, effectivement, Cécilia, bonsoir. C'était un grand moment à Bercy ce soir parce que la France n'avait jamais fait tomber la Finlande en championnat du monde. La Finlande, c'est une grande nation du hockey sur glace. La France, c'est une nation émergente dans ce sport qui est encore un sport mineur en France. Et on avait eu un peu de déception hier contre la Norvège et pour la défaite et pour l'ambiance qui manquait un petit peu dans les travées. Et les joueurs que je viens de voir, avec qui je viens de discuter, nous l'ont dit. Et là, aujourd'hui, superbe ambiance, plus de 11 000 spectateurs, une patinoire presque pleine avec énormément d'ambiance, énormément de supporters de la Finlande aussi, mais un public bleu qui a répondu présent, qui a découvert aussi pour certains le hockey sur glace et quelle découverte parce que c'est vraiment un immense exploit qu'ont réalisé les Français en battant les Finlandais 5-1. Est-ce qu'il leur ouvre peut-être aussi le chemin des quarts de finale, ça serait vraiment énorme pour les Français.
Merci Xavier Monferrand. Prochain match pour l'équipe de France de hockey mardi face à la Suisse. On termine par de la moto. L'Espagnol Dani Pedrosa sur Honda a remporté le Grand Prix d'Espagne. Sachez que le Français Johan Zarco a été impressionnant sur ce circuit d'Andalousie. Le pilote d'Avignon sur Yamaha termine quatrième au pied du podium. Zarco qu'on surnomme le rookie. C'est un bisu, Yves Decamps. C'est un petit jeune.
Pourquoi
ça n'a rien
regardez
à voir avec nous.
C'était le journal des sports de Cécilia Arbona, France Inter. Il est 19h20. Retour à la soirée spéciale, second tour de la présidentielle avec vous Nicolas Demorand.
Merci mon cher Yves Decamps.
Soirée spéciale, élection présidentielle, second tour. Avec Ipsos Soprasteria, France 2, Le Monde et Le Point sur France Inter.
La soirée électorale de France Inter continue. On est ensemble, vous le savez, jusqu'à minuit. À 20h précise, le nom du 8e président de la 5e République. À partir de là, nous retrouverons nos envoyés spéciaux dans toute la France, nos reporters dans les QG des candidats, les motos de Radio France qui sillonneront Paris, et puis nos correspondants à Berlin, Londres, Bruxelles, Rome, Washington, Moscou. Nous dirons comment le résultat de cette présidentielle qui a passionné le monde est reçu à l'étranger. Tout de suite, commençons par l'analyse de la participation.
France Inter,
Nicolas Demorand.
À mes côtés, voilà, j'ai eu un petit problème d'outil de travail. Frédéric Mettezo, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Chef du service politique de France Inter, Arnaud Le Parmentier qu'on retrouve. Rebonsoir Arnaud.
Bonsoir Nicolas.
Quotidien Le Monde partenaire de cette soirée. Et Jean-Yves Dormagin, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier, vous êtes avec nous jusqu'à 23h, hein, je vous l'annonce et vous le confirme.
Tant mieux.
Pourrez voir de l'intérieur le chaudron de la rédaction et vous êtes bienvenue si vous souhaitez interviewer avec nous les invités politiques qui se succéderont à partir de 20h au micro d'Inter. La dernière estimation que nous recevons à l'instant d'Ipsos à 19h15 fait état d'une abstention de 25,3. Premier commentaire, Jean-Yves Dormagin, sur ce qui est une estimation. Hein.
Ben c'est une estimation relativement élevée, hein, évidemment, puisque... on serait donc dans un niveau d'abstention record pour une élection présidentielle, avec aussi un phénomène qui est assez atypique, qui est que l'abstention augmente au second tour, alors qu'on observe en général l'inverse, c'est-à-dire que d'habitude, la participation est supérieure au second tour de scrutin. Bon, à part l'élection très particulière de 1969, mais on sait qu'elle opposait deux candidats de droite gouvernementale, de droite républicaine, donc la gauche était exclue de l'élection, et c'était d'ailleurs très faiblement mobilisé. Donc à part ce scrutin totalement atypique, on est là devant un phénomène un peu inédit, hein, qui est une augmentation de l'abstention entre les deux tours. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire que c'est un peu un 21 avril 2002 à l'envers. C'est-à-dire qu'on se souvient que la qualification de Jean-Marie Le Pen au premier tour de scrutin le 21 avril 2002, c'était fait dans un contexte qui était très abstentionniste. Puisqu'on a eu à peu près 28% d'abstention, ce qui était un record à l'époque, ce qui l'est toujours d'ailleurs, pour un premier tour d'élection présidentielle, suivi d'une remobilisation forte au second tour. Cette fois-ci, on a plutôt eu l'inverse.
Voilà,
on a eu une abstention qui était déjà relativement importante au premier tour pour une présidentielle, bon contenu, mais tout petit peu supérieur à la norme. Et là, on a à nouveau, visiblement, une progression de l'abstention, sans doute autour de 25, peut-être même un peu plus, on verra au fur et à mesure dans la soirée, avec, on le sait déjà, des niveaux très élevés dans certains territoires et dans certains quartiers.
Ça, on va y venir en détail avec vous, Frédéric Mettezo.
Oui, pour ajouter à ce que disait Monsieur Dormagin à l'instant avec l'élection de 1969 qui était celle où on avait le moins voté, il y a un parallèle avec celle d'aujourd'hui, c'est que, vous l'avez rappelé, la gauche n'est pas présente, mais en plus, la droite républicaine telle qu'elle s'incarnait dans la candidature de François Fillon est également absente. Donc il y a une absence d'offre absolument inédite. Hein. Si on fait le total Hamon-Fillon-Mélenchon, ça fait près de 50% des partis dits traditionnels qui ne sont pas présents à ce second tour. Et puis, l'autre nouveauté de cette campagne d'entre-deux-tours, il ne s'agissait pas non plus de surdimensionner la chose, mais il y a eu des appels au vote blanc, des appels à l'abstention. On a vu toutes les circonlocutions de Jean-Luc Mélenchon ou même de Martine Aubry qui s'est prononcé tard sur le vote. Ou d'ailleurs, Mélenchon, lui, ne s'est pas vraiment prononcé. Donc, il y a eu cette nouveauté, à la différence de 2002 où il y avait eu, vous vous souvenez, les pinces à linge ou les gants en plastique pour aller voter, mais ça restait un épiphénomène.
Arnaud Le Parmentier, puis on va retrouver Cyril Graziani, pardon, au carrousel du Louvre.
Non, je vais juste prendre un petit peu le contre-pied. Effectivement, la participation baisse, mais 3 Français sur 4 se déplacent pour aller voter à la présidentielle. La présidentielle reste quand même l'élection phare et elle est légitime du fait de la participation très élevée, qui est quand même un record dans les démocraties. Hein, l'élection Trump, Hillary aussi, je sais bien que ça n'a rien à voir, mais avait une participation beaucoup plus faible et surtout avec 50% des partis traditionnels non représentés. Donc, en dépit de ça, les Français sont allés faire un choix qu'on connaîtra tout à l'heure. Il faut quand même voir que la droite, les électeurs de droite étaient orphelins, même si clairement les cadors de la droite avaient appelé à voter pour un certain candidat et on avait tout le parti de Mélenchon qui était dans l'hésitation. Donc, 75%, c'est effectivement un repli, mais c'est pas une catastrophe, ça n'est pas une insurrection ou un refus d'aller voter.
Un mot, Frédéric, et le carrousel du Louvre nous attend.
Oui, a fortiori, en état d'urgence, il faut le rappeler, il y a eu des mesures de sécurité renforcées, les Français n'ont pas eu peur d'aller voter et ça c'est quand même une bonne nouvelle pour notre démocratie.
Et je salue donc maintenant Cyril Graziani. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Nicolas.
Vous êtes au carrousel du Louvre. Pourquoi le Louvre d'ailleurs, Cyril ?
Alors, le carrousel, ça a un intérêt, c'est entre la Concorde et Bastille. La Concorde, c'était trop connoté Sarkozy 2007, la place de la Bastille, trop Hollande 2012. Donc le juste milieu, c'est ce carrousel du Louvre avec, en toile de fond, les pyramides de verre, hommage à François Mitterrand. Mais pour certaines mauvaises langues, on va taire leur nom, le Louvre, ça rappelle aussi peut-être un brin Louis XIV. Alors Emmanuel Macron, futur roi soleil, pardon, hypothétique président de la République, il est attendu ici en deuxième partie de soirée, qu'il gagne ou qu'il perde. Il doit prendre la parole après 20h, une fois les premiers résultats connus, à son QG dans le 15e arrondissement, QG où il se trouve actuellement avec quelques-uns de ses proches, François Bayrou, Gérard Collomb entre autres. Le public, lui, a été autorisé à rentrer sur le site du Louvre, beaucoup muni d'un drapeau français qui se dirige en courant vers la Seine, en courant et plus en marche.
Merci Cyril Graziani, on vous retrouve dans quelques minutes et tout au long de cette soirée, on est ensemble jusqu'à minuit. On va partir du côté du Bois de Vincennes où se trouve le QG de Marine Le Pen. Bonsoir Aurélien Colli.
Bonsoir Nicolas.
Dites-nous ce qui se passe chez vous, mon cher Aurélien.
Écoutez, Marine Le Pen est arrivée il y a une petite demi-heure depuis elle a disparu dans un genre de loge pour attendre les résultats. Elle devrait prendre la parole assez vite. Une fois qu'ils seront connus, côté ambiance, je vais vous dire la vérité, c'était plus chaleureux pour la soirée électorale du premier tour. On était à Hénin-Beaumont, dans le Nord, le fief de Marine Le Pen. Comme ce soir, les journalistes étaient dans un espace à l'écart de la salle principale, mais il y avait quelque chose de plus simple, de plus spontané. Là, c'est un peu plus tendu. Alors peut-être à cause du lieu, ce chalet du lac au Bois de Vincennes, nettement plus chic, voire snob, que la salle des fêtes d'Hénin-Beaumont. Peut-être à cause des militants, pas des électeurs du Nord, plus populaires, mais des cadres du parti, sur invitation uniquement. Et puis bien sûr, il y a aussi l'enjeu qui change. L'ambiance, un premier tour, ce n'est pas un deuxième tour. Une chose est sûre, l'ambiance est pesante avec un dispositif policier qui est très impressionnant autour du site, un service d'ordre du FN qu'on a connu aussi beaucoup plus accueillant. Ça va peut-être se réchauffer après les résultats à 20h ou bien tout simplement après le départ des journalistes à 22h puisque c'est l'heure à partir de laquelle ils devront quitter la grande salle où va se dérouler la fête. Pas de caméra, pas de photos, pas de micro pour finir cette soirée entre frontistes. Décidément, jusqu'à la fin de cette élection, les rapports sont compliqués avec la presse ce soir. Il y a une dizaine de médias qui n'ont pas pu être accrédités, notamment Mediapart, Quotidien ou Rue 89. Officiellement, c'est pour un problème de place, mais du coup, eh bien, pas mal de médias ont décidé de boycotter tout simplement cette soirée électorale, Nicolas.
Mmh. Aurélien Colli, donc, au QG de Marine Le Pen, au Bois de Vincennes. Revenons à cette participation, Jean-Yves Dormagin. Vous travaillez sur et en Seine-Saint-Denis, où l'on vote peu. Pour quelles raisons ?
On vote peu parce qu'on cumule... sur ces territoires, tous les facteurs qui portent vers l'abstention. La jeunesse, c'est des quartiers très jeunes. Les jeunes votent moins que les seniors. Le niveau de diplôme, d'éducation qui est inférieur. Le diplôme fait voter. Les catégories supérieures votent plus que les catégories populaires. Donc l'origine aussi des populations. Beaucoup de Français d'origine étrangère. Donc ils n'ont pas bénéficié forcément du même contexte de politisation, puisque leurs parents ne votent pas, connaissent parfois mal la politique française, etc. Donc tous ces facteurs cumulés font qu'effectivement, la Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, sans doute après la Corse, sera le département le plus abstentionniste, probablement avec plus de 10 points de participation en dessous de la moyenne nationale. Moi, j'ai passé la journée, comme tous mes dimanches électoraux, dans un quartier de vote de ce territoire de Seine-Saint-Denis. Je pense que la participation, évidemment, je suis venu vous rejoindre avant la fin du scrutin, donc laissons les gens voter, mais je pense que la participation sera de l'ordre de 60% aujourd'hui dans les quartiers de grands ensembles de Seine-Saint-Denis, donc 40% d'abstention. Et pour rajouter quelque chose par rapport à l'intervention d'Arnaud Leparmentier, c'est pas si différent que ça des États-Unis parce qu'il faut rajouter 10 points de non-inscription. Et quand on rajoute les 10 points de non-inscription à la participation, à l'abstention plutôt ce soir, on s'aperçoit qu'on va être quelque part entre 35-40% de non-vote. Finalement, c'est presque la participation nord-américaine. Donc, ne nous réjouissons pas trop vite. Démocratie souffre quand même de problèmes de participation.
Est-ce qu'il est possible, Jean-Yves Dormagin, à chaud, là, avec ces chiffres 25-3, donc d'abstention selon Ipsos, de formuler quelques hypothèses. Je ne demande pas des explications de ce surcroît d'abstention, mais au moins des hypothèses. Ça peut venir d'où, d'après vous ?
Mais c'est pas très surprenant en même temps. C'est-à-dire qu'il me semble que les analyses, les commentaires qui ont été produites durant l'entre-deux-tours laissaient présager une progression qui, c'est vrai, est contenue. Il n'y a pas un effondrement de la participation, il y a une progression. Alors selon qu'on aura 25 ou 28% d'abstention, ce sera un tout petit peu différent, y compris symboliquement. Mais je veux dire, effectivement, elle est contenue, elle est sans doute due... Et la carte qui s'annonce de l'abstention paraît le confirmer. Elle est sans doute due à des reports contrarié du côté de la gauche, en particulier de l'électorat qui a choisi Jean-Luc Mélenchon au premier tour, hein, l'électorat de la France insoumise, dont on savait qu'une partie importante, hein, dans les sondages, en tous les cas dans les études, annonçait de l'abstention et du vote blanc, parce que ce sera le second élément évidemment intéressant, en plus des résultats bien sûr de la présidentielle, ce sera le volume de vote blanc. Donc elle vient sans doute de là, elle vient sans doute en partie aussi de l'électorat de François Fillon, elle vient d'une partie des électeurs qui ont eu du mal à se mobiliser sur ce second tour, pour des raisons diverses, hein, liées sans doute à la banalisation du Front National d'un côté, liées au fait que la personnalité, le projet, l'image d'Emmanuel Macron à gauche et à droite pouvaient poser problème pour certains électeurs. Enfin, tous ces phénomènes cumulés peuvent expliquer la légère progression de l'abstention. C'est vrai que c'est pas, répétons-le, hein, c'est pas un effondrement de la participation, c'est une légère progression de l'abstention, un peu amplifié dans certains territoires.
Frédéric ? Oui, moi j'ai une question sur la nature de cette abstention. Il y a une abstention par rapport à l'âge. Il y a aussi des phénomènes très nets qui avaient déjà été soulignés par des études d'Ipsos pour le Cevipof et Le Monde. C'est les inclus, ceux qui ont un patrimoine, ceux qui ont un haut niveau d'études, et puis ceux qui ont un patrimoine plus faible, voire inexistant, ceux qui sont soit au chômage, soit avec un niveau d'études de plus faible. Il y a une participation de classe, entre guillemets, ou une abstention de classe.
Jean-Yves Dormagin.
Ah oui, mais qui était déjà visible au premier tour. Oui. C'est-à-dire qu'au premier tour, on a des écarts de participation très importants selon les territoires. La géographie électorale est pour le coup très claire, c'est-à-dire que Neuilly vote à 88% et Saint-Denis, de mémoire, à 66 ou 68. Enfin, il y a 20 points d'écart entre Neuilly et Saint-Denis.
C'est nouveau, et... cette...
Non,
ou c'est... Ça a toujours été comme ça.
Alors, ça... C'est une tendance de très longue durée, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu une plus faible participation de certaines catégories sociales ou de certains territoires par rapport à d'autres. Mais le premier tour est intéressant. Alors, il y a une élection qui avait réduit les inégalités de participation, c'est 2007. Ce qui est assez logique, hein, quand on a 84% de participation, finalement, ça veut dire que tout le monde vote, ou presque. Et 2007, c'est une élection qui réduit les inégalités de participation. La Seine-Saint-Denis vote à plus de 80% de mémoire. La Cité des Cosmonautes à plus de 80%. Enfin, le territoire que moi j'étudie plus au microscope.
Donc c'était Nicolas Sarkozy contre Ségolène Royal.
Oui, hein, Nicolas Sarkozy contre Ségolène Royal. C'est une élection avec une participation très, très importante dans un contexte où l'inscription aussi est particulièrement élevée sur les listes électorales. Enfin, il y a une sorte de très grande mobilisation électorale en 2007 qui rappelle les années 70 et jusqu'à l'élection de François Mitterrand en 1980.
Et est-ce que sont les réserves de la gauche? Est-ce qu'on peut parler comme ça? Souvent on disait le peuple de gauche au deuxième tour met du temps à se mobiliser. Est-ce que quand il y a une plus forte participation, ça donne une indication sur l'orientation du clivage gauche-droite? Peut-être pas aujourd'hui, parce qu'on est dans un cas spécial, mais historiquement.
Mais ça s'est complexifié parce que le monde ouvrier, dont on sait qu'il était la base électorale de la gauche jusqu'aux années 80, le monde ouvrier dans les années 70 était très mobilisé. Entre autres du fait de la forte présence du Parti communiste sur le territoire, sur les lieux de travail, de la syndicalisation. Enfin, on avait un monde ouvrier qui était en situation de se mobiliser fortement, en particulier pour des élections présidentielles. Je regardais en Seine-Saint-Denis, on était à près de 90% de participation en 74. Enfin, il y a un niveau de participation exceptionnel à l'époque lié à tout un tas de facteurs. Et puis comme ensuite l'électorat, les électorats se sont d'une certaine manière complexifié, et que la gauche a aussi prospéré sur les classes moyennes, les cadres, les professions intellectuelles, y compris les professions intellectuelles supérieures, dont bénéficie Emmanuel Macron aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, cette partie de la gauche a voté assez massivement pour lui il y a 15 jours. Donc comme l'électorat de la gauche s'est complexifié, aujourd'hui on ne peut pas dire que l'abstention, de manière mécanique, pénalise nécessairement aussi facilement un camp. C'est-à-dire que ce que la gauche peut perdre dans certaines catégories populaires, elle peut, enfin en tout cas une certaine gauche peut le récupérer chez les diplômés, chez les cadres. On regardait comment Paris a voté il y a 15 jours. Donc c'est très massivement et plutôt pour évidemment massivement pour Emmanuel Macron. Donc je veux dire c'est plus complexe. C'est-à-dire que aujourd'hui la sociologie électorale est plus complexe et on peut pas comme ça directement en déduire.
Dans 25 minutes, le résultat du second tour de cette élection présidentielle. D'ici là, sur France Inter, on repart Place Beauvau, où nous attend Estelle Schmitt. On parle ici de l'abstention, de la participation. Estelle, qu'en est-il du côté de chez vous, au ministère ?
Eh bien, en tout cas, on peut déjà dire que c'est une présidentielle où on s'est moins mobilisé au second tour. Attention, ce taux n'est pas définitif. Mmh. Pour le moment, on dispose du chiffre de 17h, 65,3%. C'est 4 points de moins qu'au premier tour à la même heure, où la participation était de 69,42%. C'est également moins que lors des 4 précédents scrutins présidentiels au second tour à 17h. En 2012, la participation était proche de 72%. En 2007, 75%. C'est près de 10 points de plus qu'aujourd'hui. En 2002, 67,62%. Et plus de 66% en 95. On le voit, une participation historiquement basse, 65,3% à 17h. Si le taux définitif était inférieur à celui du premier tour, qui était plus de 77%, ce serait une première depuis la présidentielle de 69. Alors, quelques éléments encore sur la géographie maintenant de cette participation. À 17h, on a le plus voté dans l'Allier, l'Eure et les Deux-Sèvres, à plus de 72%, plus de 71% pour les Côtes d'Armor, le Cantal et l'Aude. En revanche, on a moins voté en Corse du Sud, moins de 54%. Viennent ensuite la Seine-Saint-Denis, la Haute-Corse et le Val-de-Marne.
Merci Estelle Schmitt en direct de la place Beauvau. Cette géographie de l'abstention et de la participation, Jean-Yves Dormagin, vous semble tout à fait classique.
Ah bah c'est toujours la même.
C'est toujours la même, voilà, oui. Ça ne change pas.
Non, c'est très constant, c'est très prévisible.
Est-ce qu'il y a possibilité, parce que je me souviens de tous les téléphones sonnent qu'on a pu faire depuis le premier tour de l'élection présidentielle, tous les soirs sur France Inter, on avait un certain nombre d'auditeurs qui nous appelaient pour défendre une abstention archi-réflexive et hyper-politique, pour lesquelles s'abstenir, bah, c'était vraiment participer à cette élection, d'une autre manière que le fait d'aller voter pour l'un ou pour l'autre. Mais est-ce qu'il y a de votre point de vue, quelque chose de plus fort qui s'est joué avec ces abstentionnistes-là en 2017 là?
Bah, c'est une combinaison des deux. Il y a une abstention sociologique qui est très très forte. Évidemment que les chiffres qui viennent d'être évoqués, en particulier pour la Seine-Saint-Denis, le fait que ce soit prévisible, vous voyez, vous avez tout un tas de facteurs qui font quand même que la dimension sociologique de l'abstention est importante. Après, il est clair que lors de ce second tour de présidentielle, on a aussi de l'abstention politique. On a aussi une abstention qui aura été nourrie par l'électorat de François Fillon ou l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Et dans ce cas-là, ce sont probablement pour certains, une proportion non négligeable d'abstentionnistes, des électeurs qui, dans un autre contexte, seraient allés voter. Donc, qui bien évidemment manifestent par là leur refus de l'offre qui leur a été proposée. Alors il faudra aussi regarder les bulletins blancs. De ce point de vue-là, ce sera intéressant de voir si on bat le record historique ou non de bulletins blancs. Je crois que c'est 6,4% de mémoire. C'était d'ailleurs en 1969, au second tour de cette élection qui opposait deux candidats de droite. Et ce sera là aussi un indicateur intéressant de voir le nombre de bulletins blancs.
Un mot, Frédéric Mettezo et Amandine Lama.
Oui, sur la question du vote blanc, d'ailleurs, on est dans un paradoxe. C'est-à-dire que les votes blancs sont comptés. Hein, on dit bien combien il y a eu de bulletins blancs, mais ensuite, pardon, ils sont décomptés, mais ensuite ils ne sont pas comptés dans le pourcentage final. La loi avait été modifiée il y a 3 ans, je crois, pour qu'effectivement on puisse afficher officiellement le pourcentage et le nombre de bulletins blancs, mais ensuite on remouline un résultat final en ne les comptant pas. Donc finalement, le vote blanc existe sans exister. Question subsidiaire, qu'est-ce qu'on fait si on compte le vote blanc réellement, si on l'intègre au résultat? Est-ce que dans ce cas-là, il faut rendre le vote obligatoire? Première question. Et deux, qu'est-ce qu'on fait si on arrive à 15, 30 ou 50% de vote blanc? Est-ce qu'il faudrait, dans ce cas-là, annuler l'élection? C'est vrai que dans la question du vote blanc, il y a beaucoup de sous-questions qui peuvent se poser.
Jean-Yves Dormagin.
Oui, qui sont d'ailleurs des questions très politiques, oui. Puisque certains candidats les ont mis à leur programme.
Dupont-Aignan, notamment, l'avait mis au premier tour.
Oui, c'est vrai. Je crois que Jean-Luc Mélenchon aussi avait des propositions qui allaient en ce sens. Bon, c'est évidemment pas mon rôle de trancher entre les programmes des candidats. On peut faire un certain nombre de réflexions, on va dire, logiques sur le sujet. C'est-à-dire que si on rend le vote obligatoire, puisque c'est la question que vous m'avez posée, avec certainement des avantages et des inconvénients dont on pourrait discuter, si on rend le vote obligatoire, il semble presque inévitable d'intégrer les blancs dans les suffrages exprimés.
Je posais la question autrement. Si on veut compter les blancs dans les suffrages exprimés, est-ce qu'il ne faut pas rendre le vote obligatoire? D'ailleurs, quand on vote dans certains bureaux test, quand on a des machines à voter, il y en a quelques centaines en France, on a le choix entre candidat 1, candidat 2 et vote blanc.
Oui, tout à fait. Mais j'avais fait exprès de renverser la question que vous m'aviez posée, parce que voilà, la question,
enfin,
tout simplement parce qu'il était beaucoup plus simple d'y répondre. C'est-à-dire que si le vote est obligatoire, alors il paraît inévitable logique de permettre à l'électeur d'exprimer son refus de l'offre, puisqu'on l'oblige à voter, donc de voter blanc, et que les blancs soient intégrés dans les exprimés. Ce qui est intéressant, c'est que, malgré tout, tout est fait pour invisibiliser le vote blanc. Bon, déjà, le fait qu'il n'y ait pas de bulletin blanc dans les bureaux de vote, c'est évidemment quelque chose qui rend cet acte encore plus complexe, puisqu'il faut le faire. Alors, on peut mettre une enveloppe vide, qui le sait d'ailleurs ? Est-ce qu'on est certain que les électeurs savent qu'une enveloppe vide est comptabilisée comme un vote blanc ? Je ne pense pas. Je pense qu'énormément d'électeurs l'ignorent. Ensuite, il faut amener son bulletin blanc. Enfin, tout ça est évidemment plus complexe. La dissociation entre vote blanc et vote nul me semble curieuse, personnellement. J'ai toujours trouvé que c'était un contresens sur l'interprétation de ces votes. Pourquoi ? Parce que bien souvent, les électeurs qui votent nul expriment un message politique. Il suffit d'avoir assisté à un dépouillement. Tous ceux qui ce soir assisteront à des dépouillements vont s'en rendre compte. Il y aura des tas de votes dans lesquels les électeurs mettent des messages hostiles à l'un ou à l'autre des candidats ou aux deux, etc. Et considérer que ce sont des votes nuls, c'est considérer que ce sont des fautes techniques, alors que ce sont les votes les plus expressifs en réalité. Enfin, c'est ceux où, quand on veut dire quelque chose, finalement, c'est encore le meilleur moyen de le faire, d'une certaine manière. Et donc, considérer qu'il y a d'un côté des erreurs techniques qui seraient les votes nuls et des votes blancs qui seraient des votes protestataires ou contestataires, me semble un contresens. Et je pense d'ailleurs qu'on aurait intérêt ce soir à faire tout simplement le ratio entre votants, enfin la soustraction votants exprimés, et là on aura une idée par cette soustraction en réalité de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ne souhaitait pas choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Alors vous allez nous aider à le faire, ainsi qu'Amandine Lama, bonsoir.
Bonsoir.
Ipsos, dites-nous vos derniers chiffres.
Alors notre dernière estimation de l'abstention, vous l'avez dit, elle est de 25,3%. C'est une première estimation de l'abstention, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur des projections à partir des chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur. On est vraiment sur des remontées réelles qui sont faites par nos correspondants Ipsos Soprasteria dans 500 bureaux de vote. On a donc les premiers bureaux qui ont fermé à 19h et des appels qui sont entrés et nous avons commencé à comptabiliser la participation. Derrière ça, on a un modèle mathématique qui tourne. C'est la même chose que ce que l'on va utiliser à 20h pour vous donner des premiers chiffres des résultats. 25,3% d'estimation d'abstention nationale, c'est plus de 3 points supplémentaires par rapport au premier tour.
Arnaud Le Parmentier, Frédéric Mettezo.
Non, moi, je voudrais revenir quand même sur le principe sur des votes blancs. On va sans doute l'avoir oublié dès qu'on aura le résultat sur le président de la République. Une élection, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour choisir quelqu'un. Il y a des gens à qui on demande de choisir au premier tour. Au premier tour, l'offre était complète, ou au moins quand on pense qu'il y a 11 candidats, on peut penser que toutes les familles politiques étaient représentées, toutes les nuances du trotskisme, du souverainisme, etc. Bon, la droite s'est tirée une balle dans le pied avec François Fillon en ayant un candidat empêché par lui-même. Bon, mais ça, c'est leur problème. Donc après, il y a le deuxième tour pour continuer de choisir. Là, c'est pas le moment où on remet en cause les règles du jeu. Dire entre le premier et le second tour, je ne participe plus, ça veut dire je ne reconnais plus la légitimité du processus démocratique. Bon, bah, très bien, mais honnêtement, je comprends, il faut le prendre comme message politique, mais ça n'invalide nullement le principe qui est qu'il faut bien choisir quelqu'un. Donc comme il faut bien choisir quelqu'un, on a ce système, on peut en changer, mais on va pas gloser pendant des heures sur l'illégitimité d'une élection sous prétexte que le PS et la gauche se sont fait, ou la gauche, j'allais dire plus pure ou plus à gauche, s'est fait éliminer, et que la droite républicaine s'est fait éliminer aussi.
On a le droit de gloser encore, non, quand même, Arnaud Le Parmentier.
On glose, ça s'il faut tenir jusqu'à 20h.
Mais non, mais pas du tout,
ce genre d'émission.
Parce que ce sont des sujets extrêmement intéressants. Je suis absolument navré de vous l'annoncer, Frédéric Mettezo.
Oui, je vais même gloser jusqu'au 11 et au 18 juin, je prends de l'avance, puisque il y a une autre façon de légitimer, relégitimer, surlégitimer ou au contraire délégitimer ou moins légitimer le futur ou la future président de la République, ce seront les élections législatives, avec déjà, quel que soit le vainqueur de ce soir, une situation assez unique, puisque on n'est plus dans le bipartisme, on n'est pas dans le tripartisme, on n'est pas dans le quadripartisme, on est dans le penta ou le quinquapartisme. On a le bloc d'extrême droite Front National, on a le bloc En Marche, qu'il faudra encore qualifier précisément, on a le bloc de la droite et du centre, on a grosso modo ce qui reste du Parti Socialiste et ce que sont les Insoumis, avec des nuances. Donc ça fait cinq forces qui se sont exprimés. D'ailleurs, on l'a vu à l'élection présidentielle, dont 4 qui ont fait de 19 à 24% au premier tour, et Benoît Hamon, lui, pour le PS, qui a fait beaucoup moins. On part donc vers des élections législatives qui vont être extrêmement intéressantes à suivre. Jusqu'ici, les législatives, que ce soit juste après la présidentielle en 2012, 2007 et 2002, ou que ce soit après les dissolutions de François Mitterrand, les législatives avaient toujours confirmé l'élection présidentielle. Là, il va être intéressant de voir, avec cette nouvelle offre politique et ce président ou cette présidente qui sera d'un parti qui n'a jamais siégé à l'Élysée, il sera intéressant de voir s'il y a une majorité nette. Ajoutons que si la participation est en baisse aux législatives avec 5 partis, 5 blocs engagés au premier tour, ça fait un ticket d'entrée pour le second tour qui risque d'être assez compliqué. Donc ça pourrait limiter le nombre de triangulaires.
Vous voulez gloser Arnaud Le Parmentier sur le sujet ou pas ?
Non, non, j'attends maintenant 20h.
Est-ce qu'il faut, Jean-Yves Dormagin, on commence à en voir circuler, vous avez un œil aiguisé sur les sondages, des sondages qui commencent à extrapoler, à partir je sais pas quoi d'ailleurs, des hypothèses pour les législatives, c'est totalement foutraque sur le plan méthodologique ou pas ?
Il faut reconnaître que les sondages là, oui, qui ont été publiés lors du premier tour élection présidentielle à 48 heures du scrutin, les derniers sondages publiés étaient très proches du résultat final, il faut le reconnaître. Je les ai beaucoup critiqués, donc y compris avec vous sur cette antenne.
Au micro de France Inter, effectivement.
Je le reconnais, ce qui ne signifie pas d'ailleurs que les échantillons sont venus, mais c'est un autre débat, ce qui n'est d'ailleurs pas intéressant ce soir, on n'est pas là pour ça. Vous le dites vous-même, c'est évidemment compliqué d'extrapoler sur des législatives alors qu'on n'a pas encore le résultat de l'élection présidentielle et qu'on ne sait pas, on ne sait même pas qui est ce soir pour l'instant, jusqu'à 20h, le président de la République. On ne sait pas exactement dans quelles conditions il est élu, avec quel score, même la participation, on en est encore aux estimations, on ne connaît pas les bulletins blancs, etc. Donc, enfin bref, on manque de beaucoup trop d'éléments, on sait très bien que les électeurs vont se prononcer aussi en fonction de cela. Et donc forcément, demander aujourd'hui à des électeurs qui ne connaissent pas le résultat d'une élection quel sera leur comportement pour l'élection suivante, c'est forcément fragile du point de vue prédictif.
Et ce qui peut biaiser, de partout.
Il est clair, je voudrais juste quand même revenir un tout petit peu sur ce qu'on s'est dit précédemment, puisqu'il faut bien qu'on glose jusqu'à 20h.
C'est important, la glose, c'est intéressant.
Oui, moi je trouve ça très agréable personnellement, mais bon.
C'est hygiénique. Pour l'esprit, oui.
Oui, complètement. Aujourd'hui, on est par rapport aux législatives dans une situation. Alors, juste sur les bulletins blancs, je vais revenir un peu sur les bulletins blancs. Je pense que la discussion qu'on est en train d'avoir, qui je pense ressemble à beaucoup de discussions qui auront lieu ce soir, elle a quand même une importance, puisque précisément ce qui se joue, on est d'accord, c'est la légitimité de l'élection, la légitimité de la candidate ou du candidat élu, et que selon que s'imposera des commentaires qui insisteront plutôt sur l'abstention, les votes blancs, les études, le niveau d'adhésion, vous voyez, que les études révèlent sur les différentes candidatures, etc., ou au contraire, selon que l'élection sera interprétée comme un fort soutien et manifestant un fort consensus, ça aura forcément un impact sur la suite, déjà sur l'existence ou non d'un état de grâce présidentiel. On l'oublie, mais il y a longtemps eu un état de grâce présidentiel dans ce pays.
Et pourquoi il s'est arrêté ? À partir de quelle année estimez-vous que l'état de grâce s'est réalisé ? Moi, je me souviens de Nicolas Sarkozy qui nous avait dit « je vais aller dans un monastère » et qu'on a retrouvé sur le yacht de Bolloré immédiatement. On a trouvé François Hollande qui a dit « moi, je vais prendre des vacances cet été » et qui les a prises d'ailleurs. De quand ça s'est arrêté et pourquoi ? Est-ce que c'est la personnalité des présidents ou est-ce l'opinion qui est beaucoup plus volatile et impatiente ?
Déjà, chez Louis XIV, l'état de grâce...
Il a eu ses plaisanteries,
oui. Non, mais on sait dater ça ou pas ?
Non, mais alors là, on oui, vous, finalement... Vous,
oui, il adore la glose.
C'est une belle mécanique à gloser.
Non, alors sincèrement, vous me posez une question sur laquelle, malheureusement, je vais avoir du mal à gloser. Je l'observe comme vous, c'est-à-dire que François Hollande n'a pas eu d'état de grâce. Alors Nicolas Sarkozy, d'une certaine manière, non plus. Effectivement, il faut remonter sans doute aux années Jacques Chirac, bien plus à François Mitterrand. Enfin, les électeurs les plus anciens se souviennent quand même de l'état de grâce qui a suivi le 10 mai 81 et cette situation dans laquelle, pendant toute une période, on l'oublie, pendant toute une période, il n'était quasiment pas possible, pas décent de critiquer le président de la République. C'était ça, l'état de grâce. L'état de grâce, c'était que ni les journalistes, ni même les adversaires politiques ne s'autorisaient à critiquer un président qui venait d'être légitimé par le suffrage universel, par le peuple, et qui, donc, pendant une certaine période, avait le droit de mener sa politique, de gouverner comme il l'entendait, dans un relatif consensus. Ça a totalement disparu.
Alors, ça a disparu. Je vous le confirme.
Pour tout un tas de raisons. Et je me demande même si, regardez, même cette semaine, on a l'impression que les candidats qui sont sur le point, enfin, les Lyonnais, etc., étaient déjà dans un état proche de la disgrâce, déjà très critiqué, on insistait déjà sur leurs failles, leur faible légitimité, tout ça est assez étrange, c'est-à-dire que, effectivement, ça a changé, il y a plein de facteurs qu'on pourrait énumérer, sans doute pour l'expliquer.
Le résultat du second tour de la présidentielle, c'est dans 9 minutes, d'ici là, on file au QG de campagne d'Emmanuel Macron, c'est un lieu différent du carrousel du Louvre. Philippe Randé, bonsoir.
Bonsoir.
Quelle atmosphère chez vous ?
Écoutez, de l'émulation et de la tension. Voilà comment on pourrait résumer l'ambiance ici dans la rue de l'Abbé Groulx, dans le 15e arrondissement. La rue de l'Abbé Groulx, c'est une toute petite rue en sens unique. Et c'est là donc que se trouve le QG d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est ici dans ce QG depuis plusieurs heures. C'est un grand immeuble en verre. Quelques drapeaux tricolores flottent. Il y a énormément de journalistes autour de ce QG. Quelques supporters d'Emmanuel Macron sont là aussi. On a vu les voisins de l'immeuble mettre des affiches en papier avec écrit à la main Macron président, mais il n'y a pas beaucoup de monde puisque vous l'avez dit, hein, la plupart des supporters, des militants d'En Marche sont au carrousel du Louvre, le Louvre qui se trouve à 6 km d'ici, du 15e arrondissement, et c'est l'autre animation autour de la rue de l'Abbé Groulx. Il y a énormément de motos de journalistes au cas où Emmanuel Macron serait président de la République, énormément de motos, des dizaines et des dizaines de motos qui se tiennent prête à partir en cas de victoire d'Emmanuel Macron, puisque vous le savez, la tradition depuis 1995 et depuis Jacques Chirac, c'est que les journalistes suivent la voiture du président élu. Donc en cas de victoire ce soir, Emmanuel Macron partirait direction le carrousel du Louvre, a priori autour de 21h30, 22h, 6 km donc entre le 15e arrondissement et le carrousel du Louvre. Il devrait faire une déclaration ici sans presse, sans militants, à l'intérieur de son QG. Il pourrait peut-être, en cas de victoire, faire un petit coup par la fenêtre aux quelques militants qui sont là dans le 15e arrondissement.
Vous serez sur une moto, Philippe Randé, rassurez-nous.
Absolument, nous sommes prêts, au cas où, évidemment, à suivre le nouveau président, si Emmanuel Macron, dans quelques minutes, est élu, pour le suivre en direction le Louvre.
Et les vous pensez...
Les 6 km qui normalement sont parcourus selon ma pied en 26 km, on verra si
en 26 minutes,
en 26 minutes, on verra en combien de temps il est parcours s'il est élu président, mais attendons quelques minutes encore les résultats.
Merci Philippe Randé en direct du QG de campagne d'Emmanuel Macron. On refait un tour au bois de Vincennes où nous attend Aurélien Colli. On est à 7 minutes de 20h. Aurélien, l'atmosphère chez vous?
Très vite, l'ambiance est clairement en train de se tendre. Les visages sont figés dans la salle principale. Un millier d'invités sont en train d'arriver. Dans la salle, il y a aussi à peu près 500 journalistes, essentiellement des télévisions et quelques radios. Marine Le Pen est arrivée il y a à peu près 50 minutes. Depuis, elle est dans un genre de loge, légèrement derrière la salle principale. Elle attend les résultats. Elle devrait en principe prendre la parole assez vite une fois que ses résultats seront connus. Ambiance donc assez tendue côté militant et puis aussi du côté du service d'ordre du FN qui a été peu accueillant par rapport à ce qu'on a pu voir au cours de la campagne avec beaucoup de contrôles de sécurité. On sent que tout doucement les choses sont en train de se mettre en place. Pas de caméra, pas de photos, pas de micro aussi ce soir à partir de 22h parce que les militants frontistes veulent finir la soirée sans médias. Et puis je vous rappelle aussi que plusieurs médias n'ont pas pu accéder à cette soirée, notamment Mediapart, Quotidien, rue 89, officiellement pour un problème de place. Et il y a aussi un mouvement qui a été lancé de boycott de cette soirée électorale ici au Front National.
Aurélien Colli au bois de Vincennes, on se retrouve dans quelques minutes. Retour au carrousel du Louvre où il commence à y avoir un petit peu de monde, Cyril Graziani.
Oui, un petit peu de monde avec beaucoup de drapeaux français qui flottent dans les airs. Le public a été autorisé à rentrer sur le site il y a à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Ils ont afflué, hein, ils ont vraiment tous couru vers la scène pour être au plus près. La scène qui est placée, on le dit depuis tout à l'heure, à côté de la pyramide du Louvre, la pyramide de verre. Comme le QG a été interdit d'accès, le QG dans le 15e arrondissement, le public, les marcheurs sont venus en nombre ici. Ils attendent, là, il est quelle heure? Il est 19h55, ils attendent dans 5 minutes soit faire la fête, soit peut-être faire grise mine. En attendant aussi peut-être la déclaration d'Emmanuel Macron qui lui est attendu ici aux alentours de 21h30, 22h. Et pour patienter, le public aura droit à un mini concert avec des DJ et un groupe Magic System.
Cyril Graziani au Carrousel du Louvre, rendez-vous dans quelques minutes. À vous aussi, Frédéric Mettezo.
Oui, avant 20h et l'annonce du nom du nouveau président ou de la nouvelle présidente de la République, il faudrait quand même redire tranquillement qu'on était face à un choix absolument inédit. On a dit tout à l'heure que c'était deux candidats qui n'étaient pas issus des partis dits traditionnels de gouvernement qui avaient jusque-là dirigé la France. On a ensuite un homme jeune, encore jeune, hein, 39 ans. Si Emmanuel Macron est élu, il est plus jeune que Giscard, il est plus jeune que Louis-Napoléon qui avait été élu président de la Deuxième République. Si c'est Marine Le Pen, ce serait la première femme à être élue présidente de la République. Mais surtout, ce sont chacun dans leur genre des profils très atypiques. Marine Le Pen, c'est une héritière. Elle a hérité du parti de son père. Elle s'est présentée contre, je crois, c'était Bruno Gollnisch au congrès du Front National. Elle a été élue avec un score soviétique. Lui, Emmanuel Macron, c'est différent. Il n'a jamais eu de mandat. Il a été d'abord énarque. Il a ensuite travaillé dans le privé à la Banque Rothschild. Il a ensuite été conseiller, secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre. Il n'a jamais été élu. Donc, dans les deux cas, quel que soit le visage du nouveau chef de l'État ce soir, on aura forcément une nouveauté en France.
Arnaud Le Parmentier.
Oui, une petite remarque, je rappelle que la réforme de la Constitution faite par Nicolas Sarkozy fait qu'un président ne peut être réélu qu'une fois, donc on en prend au maximum pour 10 ans. Tout ça, ça dépend de l'âge, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron n'a que 39 ans. C'est effectivement le record de tous les temps. Je crois que Félix Gaillard était Premier ministre, président du Conseil.
Président du Conseil de la 4e République, plus jeune, oui.
Et puis il y a la physionomie de l'Assemblée aussi risque d'être sérieusement rajeunie ou renouvelée.
En tout cas. Alors en étant pour l'instant très prudent sur les sondages en vue des législatives pour deux raisons. D'abord, il faut attendre le nom du futur président de la République et ça peut donner une dynamique aux candidats de ce qui sera alors la future majorité présidentielle, en tout cas de ceux qui souhaitent constituer une majorité présidentielle. Ensuite, il faut rappeler qu'une élection présidentielle, c'est une offre. Partout en France, vous avez les mêmes candidats dans tous les bureaux de vote. Les législatives, c'est très différent. Vous avez 577 scrutins, donc 577 offres différentes. Et au-delà des affiliations politiques, il y a aussi une dimension personnelle qui peut jouer. Vous pouvez avoir, par exemple, une ville qui va placer, cas d'école, un candidat de gauche en tête, mais qui va désigner un député de droite et vice-versa, parce que ça peut être une personnalité très bien implantée. Donc, il y a aussi cette dimension qui est difficile à mesurer sur des sondages nationaux, puisque pour les élections législatives, les premiers sondages qui ont été réalisés la semaine dernière étaient des sondages sur une masse globale et pas circonscription par circonscription.
Arnaud Le Parmentier.
Ce qu'il faut dire effectivement, c'est que pour la première fois après une élection présidentielle, la messe ne sera pas dite quel que soit le vainqueur. Marine Le Pen et le Front National ayant une majorité, c'est pas évident du tout. Et Emmanuel Macron, la manière dont il arrivera ou non à rassembler des personnes, un groupe majoritaire autour de lui, ce n'est pas évident du tout. Donc en fait, on a une présidentielle qui vraiment, cette fois-ci, est à quatre tours.
Merci d'écouter France Inter. Un mot, il est 19h58 et 50 secondes. Un mot du programme après 20h. Sylvie Goulard sera notre première invitée. Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, viendra ensuite. Puis se succéderont au micro d'Inter. Je vous donne quelques noms. Éric Woerth, Aurélie Filippetti, Richard Ferrand, Sébastien Chenu, Daniel Simonet, Benjamin Lucas, je vais tous vous les donner, Éric Coquerel, Gérard Collomb, Yannick Jadot et Luc Châtel. Donc riche soirée qu'on va passer ensemble. Jean-Yves Dormagin est toujours avec nous, nous rejoindra également dans quelques instants Jean-Yves Camus, le spécialiste du Front National. Nous rejoindra également Dominique Régnier qui dirige lui ce qu'on appelle la Fondapol, qui est un think tank plutôt libéral. Ex-fondation pour l'innovation politique. Il est 19h59 et 45 secondes. On est donc à 15 secondes maintenant de l'annonce du vainqueur de l'élection présidentielle.